Bon, on commence notre quatrième étude. Donc, nous sommes le 26 septembre 2018, 14h34. Donc, on va continuer notre survol, hein, comme on l'a dit, et c'est notre quatrième et dernière étude. Comme je viens de vous dire, je quitte pour Paris la semaine prochaine. Donc, c'est toujours dans la lettre des Hébreux qu'on est en train de voir. Avec l'aide du Seigneur. Donc, on avait vu en première étude un peu le survol de tous les chapitres, l'achèvement du plan de salut de l'ancienne à la nouvelle alliance. Donc, c'est tout le plan de salut et son achèvement que l'auteur hébreu va exposer. Donc, c'est dans le grand titre de garant du salut éternel que nous sommes en train d'étudier ces sujets. Donc, dans la deuxième étude, Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente, chapitre 8, on l'avait vu. Donc Jésus-Christ était présenté comme un médiateur bien plus excellent, un garant. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi pour cette série d'études garant du salut éternel. Sachant que le salut éternel, c'est un des termes, expressions reliés au salut, avec cet adjectif éternel lié seulement dans l'épître aux Hébreux. Et puis en troisième étude, on a vu la semaine dernière avec les tableaux, hein, tableau 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc cette alliance préparatoire, passagère et temporelle vers le sang de l'alliance éternelle du Christ. Et là, aujourd'hui, on va voir, on va survoler, hein. Parce qu'en une étude d'une petite heure, on ne peut pas tout voir de tous ces versets de chaque chapitre. J'ai spécifiquement choisi 8, 9, 10 pour mettre un peu cette question de l'alliance. Donc cette quatrième étude, toujours dans la série Garant du salut éternel, je l'intitule « Le sang de l'alliance mosaïque et le sang de l'alliance éternelle du Christ. Acceptation ou rejet du Christ ?» Une erreur d'ailleurs, c'est pas acception, c'est acceptation ou rejet du Christ. On va invoquer le Seigneur, si vous voulez, bien. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion, ce moment que tu nous donnes encore une fois de nous réunir autour de ta parole en cet après-midi. C'est toujours une joie pour nous de nous concentrer. Donne-nous toute l'intelligence, nous avons besoin. Toute l'intelligence spirituelle et le discernement des choses les meilleures, afin que nous comprenions ta parole et que nous puissions la mettre en application et que elle nous transforme, elle nous lave, elle nous purifie. Et nous voulons élever et glorifier ta parole dans cet après-midi encore. Merci pour ce groupe qui s'est réuni. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste, pour ta seule gloire. Amen. Donc on s'est un peu familiarisé, hein, dans toutes ces études que je viens de citer. Donc l'auteur nous amène dans des grands privilèges, je dirais même des plus grands privilèges que les Israélites ont obtenus, et par extension les païens aussi, dans cette œuvre de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et dans ce chapitre, il va ajouter par contre une sentence ou un jugement pour ceux qui rejettent délibérément Christ dans la période de l'ancienne comme sous la nouvelle alliance. Donc c'est cet aspect que nous allons voir en plus dans ce chapitre, du rejet délibéré du Christ ou bien de l'acceptation de Jésus-Christ. Alors nous étudierons brièvement, hein, avec le plan ci-dessous, comme je vous ai mis dans les notes. On va voir dans un premier temps le sang de l'alliance de Moïse ou mosaïque et son insécurité. Donc c'est là où on va vraiment voir qu'elle ne donne plus de sécurité. On a déjà vu, hein, que c'est temporel, que c'est passagère. Et puis dans un deuxième temps, on va voir aussi la perfection du sang de l'alliance éternelle par le corps du Christ. Donc il est toujours souvent question du corps du Christ dans ce chapitre 10. Nous allons voir ça un peu. Sa sécurité, sa garantie qui est étendue aux Hébreux et aux païens. Donc tout ça, on va voir dans le deuxième volet. Et puis dans un troisième temps, on va voir justement ce rejet du Christ et le jugement conséquent pour ceux sous l'ancienne comme sous la nouvelle alliance, ce qui est un avertissement solennel. Donc l'apôtre ou voilà, l'écrivain qui écrit la lettre des Hébreux, il lance un avertissement, et vraiment un avertissement solennel pour ceux qui rejettent délibérément. Ça, c'est la troisième réflexion. Et puis en quatrième temps, on verra l'acceptation du Christ et la sécurité éternelle du salut. Voilà pour le plan. Donc commençons donc avec le sang de l'alliance mosaïque et puis toute son insécurité. Il est donc fort intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, hein, un verset qui était directement tiré de l'Ancien Testament, c'était le verset 20, vous vous rappelez, je suppose, verset 20 qui était repris de Exode 24, 8. Donc c'est le verset 20 du chapitre 9. Hein. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et donc dans tous ces versets du chapitre 9, 18 à 21, de la dernière étude, dans le premier tableau, on a vu ce terme « sang de l'alliance ». Et dans ce chapitre, ça sera repris aussi encore une fois, cette même expression « sang de l'alliance » dans le verset 29, « le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié ». Et puis, il le rappelle juste avant la loi mosaïque, un châtiment par rapport à celui qui viole la loi de Moïse dans le verset 28. Donc nous avions déjà noté il y a 3 semaines hein, tout l'argument de l'auteur aux Hébreux et il tente de montrer vraiment une insécurité, une inefficacité, une impossibilité d'obtenir le salut à travers le sang de l'alliance mosaïque, dont les Juifs étaient tout à fait au courant hein, de cette alliance. Même si le peuple d'Israël est élu, même si elle est mise à part par le sang de l'alliance mosaïque, elle reste néanmoins une alliance insécure qui ne donne pas la sécurité nécessaire pour le salut. Parce que selon l'auteur qui s'adresse aux Hébreux, hein, cette alliance se repose complètement sur l'imperfection des souverains sacrificateurs qui l'offrent. Parce que ce sont des sacrifices qui sont répétés rituellement et qui sont que l'ombre du vrai sacrifice ultime en Jésus-Christ. Et selon le commentateur Dr MacArthur, il est estimé qu'apparemment 300 000 agneaux seraient offerts, ça fait beaucoup, hein, dans la semaine de Pâques. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer même 300 000. Donc ça fait des kilos d'animaux, de viande et de corps d'agneaux sacrifiés dans ces rites de la semaine de Pâques chez les Hébreux. Donc malheureusement, hélas, nous pouvons noter que malgré un si grand nombre de sacrifices qui sont offerts, l'issue finale reste l'inefficacité. Ce n'est pas efficace. C'est l'insécurité. Pourquoi ? Là, j'ai mis 3 raisons. Hein. Tu peux lire verset 1, Marie-Madeleine.
Je lis le papier.
Papier, par exemple, oui.
Au vu de la loi possédant seulement l'ombre, les assistants ne peuvent parvenir à la perfection de la gloire. Hébreux 10, 1. La loi ne pouvait ni sauver, ni les amener dans la sainte et glorieuse présence de Dieu.
Voilà, là c'est la note que j'ai mise hein, derrière. La loi qui ne peut ni sauver, ni amener dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, parce que, comme il dit dans le verset 1, en effet, la loi qui possède, il commence avec ça, hein. Il commence avec la loi de Moïse qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça, c'est la première raison pourquoi l'issue finale est inefficace. Il le dit d'emblée, dès le premier verset. Après aussi, il y a la question de la conscience qui est coupable. On l'a déjà vu, hein, cet aspect de la conscience qui reste coupable, toujours en proie d'accusation. C'est intéressant de lire ce deuxième verset, hein. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Et si vous voyez avec moi, peut-être que vous pouvez chercher, et si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave, c'est dans le prophète Zacharie, qui se trouve parmi les derniers livres avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Donc je vous laisse prendre avec moi. Cette conscience coupable est accusée par Satan lui-même. Et là, on voit l'exemple d'un souverain sacrificateur qui est accusé. Et c'est ça qui m'intéressait un peu en réfléchissant sur cette étude. Je vous lis dans le chapitre 3, versets 1 à 4. Donc l'avant-dernier livre pour Yves. Ouais.
C'est après Apocalypse.
Non, dans l'Ancien Testament. Zacharie, c'est l'Ancien Testament. Avant-dernier de l'Ancien Testament. Donc il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Vous voyez, il est bien question d'un souverain sacrificateur ici. Et c'est une vision au sujet de ce souverain sacrificateur que Zacharie, le prophète, y reçoit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » C'est très intéressant ce passage parce que ça recoupe justement cette conscience qui est coupable parce que Satan accuse constamment même un souverain sacrificateur. Et c'est ça que l'auteur aux Hébreux il va dire dans le verset 2 qu'on lit. S'ils se sont purifiés vraiment, réellement, ils n'auraient aucune conscience de leur péché. Mais là, il y a toujours cette accusation coupable que ce peuple et même le souverain sacrificateur il subit, puis même de la part de Satan. Et troisième raison que je dis pourquoi c'est inefficace et dans l'insécurité. Et peut-être tu peux lire dans le verset 3 de Hébreux 10, Yves. Hébreux 10 à nouveau. Verset 3, tu peux lire.
Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Merci. Donc, ici, il y a question du sang des boucs et des taureaux et qui ne ôte pas les péchés. Et je lis verset 11, par exemple, qui rejoint la même idée. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, tout comme le souverain sacrificateur qu'on a vu dans Zacharie, qui s'appelle Josué. Ce souverain sacrificateur, comme nous avons noté dans le chapitre 3 de Zacharie, même lui, y compris, tout souverain sacrificateur, tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Il répète encore. Voilà l'inefficacité, l'insécurité. Donc, ce n'est pas une exacte représentation, ce sont que les ombres. Ou je ne sais pas si vous avez déjà vu des maquettes avant la construction d'un édifice.
Ouais.
Vous avez déjà vu certainement dans les grandes expositions, quand on fait des grands tours ou même des entreprises. Moi, je me rappelle, j'ai fait la transition sur deux bâtiments différents. Enfin, le deuxième, je n'ai pas suivi, j'ai quitté l'entreprise. Mais avant de venir là où on était, ils font des belles maquettes de la construction du campus, de la tour ou là où va s'installer l'établissement. Donc c'est une maquette finalement, c'est-à-dire ça donne éventuellement une idée à peu près où ça va, mais on ne peut pas vivre dedans. On ne peut pas l'utiliser comme un lieu de travail ou un édifice, mais c'est une maquette. C'est ça un peu l'image, Donc, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur accède une fois par an et la purification reste toujours extérieure. Jamais à l'intérieur même de l'homme. La purification des péchés ne s'accomplit pas. On a toujours le souvenir qui nous turlupine, qui tracasse, qui cause des ennuis dans notre esprit. Et malheureusement, encore dans la période où les Hébreux, la lettre était écrite, il y avait toujours ce problème. Et même parfois, aujourd'hui, s'il y a tous ces troubles qui sont existants encore en nous, c'est que on laisse pas encore le sang de l'agneau Jésus le Fils pénétrer dans les parties de nos cœurs. Donc c'est une des raisons pourquoi elle reste inefficace, elle est dans l'insécurité, cette ancienne alliance. Donc en offrant les sacrifices continuellement, année après année, il se rappelle constamment des péchés commis sans aucune solution permanente pour l'ôter ou même pour purifier la conscience. Donc leur conscience coupable reste toujours en proie d'accusation à cause du souvenir des péchés renouvelés par les sacrifices dans le sang de l'alliance de Moïse. C'est même Satan qui les accuse, comme on vient de voir. Donc la notion de la conscience, on peut se concentrer un peu à ça. Ça arrive plusieurs fois sur ces versets dans chapitre 9. J'ai mis des références. 10:2, on vient de lire. 9:14 aussi, on avait lu les dernières fois. 10:22, tu peux lire peut-être.
Chapitre 10, verset 22.
Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Merci. Donc il y a aussi dans 13:18 où il est question de cette conscience que l'expéditeur de la lettre, il dit, nous croyons avoir une bonne conscience. Donc là, il rentre dans les aspects pratiques. Hier, on utilisait ce passage pour la réunion de prière. Il dit, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. Donc l'auteur, il avait ce souci de sa conscience. Donc la conscience dans ces passages, donc les références, c'est chapitre 9, verset 9, chapitre 9, verset 14, chapitre 10, verset 2, chapitre 10, verset 22 et 13, verset 18. Il se rapporte à la connaissance de l'être intérieur que l'homme sait, y compris de tout ce qui est mal et mauvais dans sa vie, lié parfois au sentiment de culpabilité, ou à l'inverse, purifié, la conscience purifiée par le sang de Jésus. Et c'est ce qu'on a lu la dernière fois dans le verset 14, je ne sais pas si vous vous rappelez, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Souvent les effets nocifs de l'alcool ou de la drogue, ils ont pour but, à votre avis, quel but ils ont? Moi je trouve que le but d'anesthésier un peu cette conscience. Souvent, c'est tout le mal dans tout ce problème, c'est qu'elle anesthésie la conscience. Donc l'effet des nocifs aujourd'hui, c'est ça, c'est anesthésier la conscience. Les gens utilisent ces substances pour que leur conscience parle pas. Et si on lit, moi je vais vous lire peut-être rapidement, ne cherchez pas, Romains chapitre 2, 15, j'ai mis, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement 14 et 15, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc ici Paul, dans Romains, il note que cette conscience créée en Dieu par Dieu, en l'homme, même s'il n'est pas juif, il y a cette conscience. Et elle révèle l'œuvre de la loi écrite, quelque part. Donc, l'insécurité d'une conscience coupable, avec le sang de l'ancienne alliance mosaïque, complètement impuissant d'enlever les iniquités, les transgressions et offenses contre Dieu. C'est la raison pourquoi elle est perturbée, cette conscience, dans l'ancienne alliance. C'est comme un médicament, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, qui soulage parfois des symptômes, surtout les médicaments comme Doliprane, par exemple. J'évite le maximum parce que finalement, elle ne fait qu'anesthésier le symptôme.
Oui.
la maladie de la source,
elle reste.
Elle n'est pas guérie. Hein. Ouais, si vous avez remarqué, certainement. Et parfois, au bout de quelques jours et puis quelques ingurgitations de ces substances, on est obligé parfois d'aller voir le médecin pour voir la source même de la maladie. Donc c'est un peu ça, hein, l'utilité, l'inutilité du sang de l'alliance des animaux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait aucun sens. Elle donnait un sens, une représentation simplement. Mais elle n'était pas efficace. Elle n'avait pas une fonction efficace dans la conscience de l'homme. Je te laisse lire, si tu veux, Madeleine, 5 et 6. Tu vois ces versets ?
Là ?
Voilà.
Ah oui, d'accord. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. »
Il écrit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. » Là, c'est intéressant. Là, on change un peu on passe maintenant vers c'est un peu comme dans le tableau, hein, la semaine dernière, vous vous rappelez, là il parle de Jésus-Christ, et là Jésus-Christ il parle, il s'adresse, et c'est un passage qui est repris de l'Ancien Testament, hein, ce passage qu'on vient de lire, pour faire ta volonté de Dieu, donc tout ce psaume 40, hein, qu'il est en train de reprendre. Donc il dit, les cérémonies physiques ou extérieures doivent satisfaire plutôt à une exigence morale intérieure pour que Dieu il agrée. C'est ça la réalité. Sachant bien de plus que celui qui offre extérieurement sans un cœur pur ou parfois avec hypocrisie, il n'est jamais couvert. Et c'est la raison pourquoi même les prophètes, ils reprochent. Amos, j'ai mis ici, on n'a pas le temps de lire, mais il va reprocher Amos 4 et 5 que ce peuple offre des sacrifices, mais ils ajoutent péché sur péché. D'où il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Donc ce peuple d'Israël avait utilisé les sacrifices, qui ne sont qu'un symbole, hein, et des rites extérieurs, comme un substitut à la foi sincère d'un cœur purifié. Ça s'est remplacé à un moment. Il commençait à faire comme une monotonie, une rite, répété sans aucun sens, et ça a perdu complètement le sens. Vous honorez de votre bouche, votre cœur ne pense pas à moi, dit l'Éternel. Hein, souvent ça arrive, hein, c'est un peu ça. Que des effets extérieurs, un cœur impur, hypocrisie, et ben tout ça ne peut pas couvrir, quoi qu'il en soit, aucun péché. Donc quand même, l'Ancienne Alliance est toute récente. Vous allez voir ici Samuel, hein, qu'il dit à Saül, j'ai mis ce verset. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il dira « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Donc c'est vraiment une moquerie et d'hypocrisie d'offrir des sacrifices sans la foi sincère en Dieu, sans la dévotion envers Dieu. Donc il dit dans ce passage, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. » Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est repris de David. Psaume de David, chapitre 40, versets 7 à 9. Et l'auteur des Hébreux, il démontre que même temporairement, le péché n'est pas couvert, donc ni part, ni aucun héritage éternel, lorsque les sacrifices des animaux ne sont pas donnés dans le bon esprit. Une raison de moins. Déjà, c'est une représentation des ombres, des choses à venir. Et en plus, avec cet esprit de désobéissance et rituel, eh bien, il n'y a aucune part, aucun héritage. Donc, ils étaient dépourvus de sens pour ces gens-là, pour ces Israélites. Formalité humaine, complètement inutile. Et Esaïe dira même, hein, vous pouvez lire chez vous, parce que le passage est lent, c'est très intéressant, Esaïe chapitre 1, versets 11 à 18, il dira, pour résumer en quelques mots ce passage d'Esaïe, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» Dieu est en dégoût. Il ne prend plus plaisir du tout à ses sacrifices. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? On va voir maintenant notre deuxième partie, hein, qui est encore plus important maintenant pour nous, parce que là, on rentre dans la perfection du sang de l'Alliance éternelle. Maintenant qu'on a vu le sang de l'Alliance mosaïque et toute son insécurité, On va voir la perfection du sang de l'Alliance éternelle par le corps du Christ. Donc je vous rappelle ce terme sang de l'Alliance éternelle qui arrive dans le chapitre 13 de la même épître de Hébreux 13, verset 20. On a cette notion que j'ai l'impression qu'il dissocie en disant le sang de l'Alliance éternelle. Et cela par le corps de Jésus-Christ. Et là où nous avons une sécurité, c'est pour ça que j'ai mis un long titre de ce deuxième réflexion, deuxième point, sa sécurité, sa garantie étendue aux Hébreux et aux païens. Là, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous êtes arrêté parfois à cette idée. C'est apaisant de reconnaître que nous sommes affranchis, libérés
du péché.
Et non seulement du péché, mais de tout le poids de la culpabilité du péché. Et reconnaître que nos péchés sont ôtés. Et Jean-Baptiste dira en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Nous avons déjà fait cette distinction dans une des études, je pense, que les anciens sacrifices n'ôtaient pas, comme nous avons lu tout à l'heure, et là il dit Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu lui-même. » Jésus est l'agneau de Dieu, qui appartient à Dieu, qui a été donné, qui ôte les péchés du monde. Et c'est en cela que consiste toute la sécurité éternelle, justement, du salut des croyants, lorsque nous mettons notre foi au Messie Jésus, né à Bethléem, mort à Jérusalem, et ressuscité le troisième jour, il y a 1985 ans environ, en l'an 33, notre ère. Donc tout Hébreu, chapitre 10, du verset 7 à 10 et du verset 12, on n'a pas le temps de lire tous ces beaux versets. J'ai mis que quelques versets, dans ses notes, il dit verset 7, « Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, Jésus-Christ qui parle, « pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Verset 8, tu peux lire peut-être.
« Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. »
Voilà. Verset 9 pour Marie-Madeleine.
C'est où ça?
Là, c'est la suite.
Non, j'arrive pas.
Verset 9, sinon dans le...
Il est ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.
Voilà. Très bien, tu veux venir avec
10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Quelle glorieuse alliance voulue de Dieu. J'ai mis parfait achèvement du plan salutaire par le Fils, pour pouvoir s'asseoir, il a accompli, tout est accompli, a crié le Seigneur sur la croix. Et il s'est assis à la droite du Père. Quel corps de notre Seigneur dont la déchirure sur la croix est vue matériellement lorsque le voile du temple est déchiré pour donner accès non seulement aux Hébreux, mais également aux païens. Et c'est cette merveilleuse vérité qu'on va voir dans ce, passage, dans ce chapitre 10 finalement. Ouais. Lorsque le corps de Jésus est déchiré,
le voile s'ouvre, de haut en bas
ça s'ouvre. Ouais. C'est rare,
Ouais.
Ça vient de Dieu.
Ouais, oui.
Dieu agrée ce sacrifice et ce corps qui est déchiré. Donc en effet, cette alliance va inclure un nouveau peuple aussi, un nouvel homme par le sang de Jésus, par le sang de Christ, réunissant les Hébreux israélites et les non-israélites des nations. J'aime tellement ce passage de Éphésiens 2, 11 à 18. Je vous laisse lire méditativement chez vous. Là, j'ai mis que quelques versets dans les notes. Donc, je lis quelques versets. Donc, dans Éphésiens 2, verset 11. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. » Il parle aux païens.
Oui.
« Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Il rappelle qu'on est étrangers aux alliances. « Sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Mais maintenant, voilà le mais, le grand mais qui change,
avec un M majuscule
si on veut, en Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ. C'est là où il y a tout le mais qui doit exploser. Parce que Jésus-Christ apparaît, le corps rien de dans l'incarnation du Fils de Dieu est donné dans le sein de la Vierge Marie. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Ça, c'est merveilleux. À chaque fois que je lis ce passage, il y a même un chant très inspiré avec ces textes que nous chantons dans notre église à Saint-Denis, au Grand Roissy aussi. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de chanter, d'apprendre, mais un jour, si possible, on vous passera. Donc si l'ancienne alliance ne donne pas l'accès au lieu très saint, ici nous lisons le sang de Christ, mais maintenant en Jésus-Christ. Il réunit le sang du Christ, les Hébreux proches. Pourquoi proches? Pourquoi à proximité? Parce que les alliances de promesses leur appartenaient. Même l'alliance mosaïque, le sang de l'alliance mosaïque, eh bien, le sang de Christ réunit les Hébreux qui sont proches à cause des alliances de la promesse et les réunit avec les non-Hébreux, les gentils. Car par lui, Jésus, les uns et les autres, nous avons accès au Père dans un même esprit. C'est cet accès qu'on est en train de voir dans ce chapitre 10.
Oui.
Comment se déroule alors cette seconde alliance selon Jérémie? Donc, comme nous avons déjà étudié dans Hébreux chapitre 8, là, il reprend pratiquement ces versets de Jérémie, 31-33, et nous lisons dans le chapitre 10 de Hébreux, 14-18, ici. Si cette nouvelle alliance donc inscrit la loi de Dieu dans les cœurs et les esprits des Israélites, quelle grâce de Dieu d'ôter les iniquités en pardonnant les péchés de son peuple hébreu. Donc en plus, cette nouvelle alliance étant le glorieux plan de salut de Dieu, aussi bien
envers les païens.
Et Paul, il écrit, l'œuvre du sang de l'alliance éternelle de Jésus, notre Messie, nous a rapprochés des Juifs en créant avec et en Jésus, en créant avec et en Jésus un seul homme nouveau. Voilà la perfection du sang de l'alliance que nous sommes en train de considérer dans ça. Vous avez des remarques avant de passer à ces deux derniers points?
C'est bien.
Donc c'est merveilleux, je trouve, quand on médite cette perfection dans le sang de Jésus-Christ. Donc, dans un troisième temps, on va voir le rejet. Donc c'était notre plan que j'ai annoncé au début. Et puis on finira avec l'acceptation du Christ. Donc il est aussi solennellement question ici du rejet de Christ et le jugement conséquent dans ce chapitre, pour ceux sous l'ancienne comme sous la nouvelle alliance. Et là, l'auteur est en train de donner un avertissement vraiment solennel.
Ouais.
Alors, on va parler d'une question de l'apostasie. Alors, l'apostasie, c'est... Donc, on disait, apostasie, c'est le rejet de la vérité. Alors, s'il y a vraiment un passage de plus grand avertissement qui est donné aux inconvertis et aux apostats. On verra tout de suite la définition. D'ailleurs, c'est dans le même passage, dans le même chapitre, qu'on a même presque un beau définition. Cela concerne notamment les versets 10, 26 à 39. Donc, bien sûr, nous n'aurons pas le temps de voir tous ces versets que vous pouvez lire. Donc, si on vient à la définir un apostat ou apostasie, et je pense que, et j'ai lu aussi dans un commentaire que une des meilleures définitions, c'est dans le verset 26 même que nous avons. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, toute l'apostasie est là en fait. Donc il faut noter que l'auteur écrit cela après avoir bien détaillé depuis le début de sa lettre, dans les chapitres précédents, comme on a vu, la garantie, la sécurité, l'excellence, le caractère éternel du sacrifice et du salut, le grand salut, un si grand salut, en tant que garant garant du salut éternel, tout en Jésus-Christ. Et c'est après avoir exposé tout ça que maintenant il parle maintenant à ceux qui rejettent, donc ceux qui ont lu certainement, ou ceux qui ont entendu certainement. Donc un apostat a entendu plus d'une fois la vérité du Christ. Il connaît très bien l'évangile prêché, mais pourtant il rejette volontairement. Et c'est là où il parle du rejet volontaire de l'apostat. Donc on peut dire que tous les apostats sont des incroyants. Moi, je crois que tous ceux qui sont apostats, qui tombent dans l'apostasie, sont des incroyants. Mais tous les incroyants ne sont pas apostats. Car un apostat est celui qui a eu vraiment une exposition suffisante de la loi de Dieu, du sang de l'Alliance selon Moïse, et dans le contexte des Hébreux, hein, de la justice même accomplie en Jésus-Christ, toute cette notion, toute la connaissance de la Nouvelle Alliance, tout l'Évangile de Messie, il a entendu tout. À l'exemple de Judas, il a même touché le Fils de Dieu. Les apostats ont vu, entendu, connu, touché, mais ils rejettent la vérité. L'incrédulité et l'endurcissement volontaire est la cause même de l'apostasie. Et je ne sais pas si vous rappelez, Madeleine était là avec nous dimanche, on avait lu justement dans Actes 28, 23, 27, ces passages où Paul il est dans un emprisonnement presque plus ou moins libre dans son champ d'action, dans cet appartement. Il parle à des Juifs en reprenant Isaïe chapitre 6 sur leur endurcissement volontaire. Ouais. Et la cause de l'apostasie, c'est l'incrédulité, manque de foi, rejet du Christ. Donc ce sont des Israélites rebelles contre Dieu, contre Moïse au désert, et ils sont inclus même ceux versés dans la loi de Moïse avec qui Paul s'entretient, même dans cette époque, pendant son emprisonnement. Donc en quelque sorte, sanctifiés dans le sang de l'Alliance, ou mis à part même, comme dit Hébreux 10, 29, hein, sanctifiés par le sang de l'Alliance. Mais ils ne se sont jamais confiés ni en Dieu, ni à la victime propitiatoire du Messie, mais au contraire, ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils outragent l'Esprit de grâce, comme il écrit ici. De tels exemples que nous avons lus, hein, même dimanche, hein, Hyménée et Philette, 2 Timothée chapitre 2, verset 16, 17. Et c'est, donc ces versets de chapitre 10 de Hébreux 26, 29 est débattu beaucoup. Parce que certains pensent que c'est des gens qui sont sauvés, qui ont cru et qui ont chuté, qui parviennent à une désobéissance. D'autres pensent, moi je crois qu'il s'agit des apostats et qui n'étaient pas dans la foi sincère, qui n'étaient pas dans la très sainte foi en Christ, le Messie. Donc certains pensent que le fait d'être sanctifié par le sang de l'Alliance, ils le voient comme un non-croyant sanctifié par un conjoint croyant. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 7, hein, lorsqu'il parle de mariage, il dit qu'un conjoint non-croyant est sanctifié par son conjoint croyant. Voilà, que ça soit vice-versa, voilà. Que ce soit la femme non-croyante ou l'homme, le mari non-croyant. Mais nous pouvons aussi voir dans ce verset, et c'est là où moi j'ai vu cette réflexion aussi, les Israélites qui sont sous le sang de l'Alliance mosaïque, comme on a vu tout la première partie, comme un peuple mis à part, sans pour autant être dans la foi sincère en Dieu qui a donné son agneau immolé. D'ailleurs, plusieurs des Juifs qui étaient mis à part la nuit pascale en Égypte, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Donc, ils étaient mis à part, quelque part. Quelque part, une sanctification par le sang de l'Alliance. Mais à cause de leur endurcissement, leur incrédulité, ils ont péri. Étant rebelles contre Dieu, ils ont piétiné son Fils, médiateur de la Nouvelle Alliance. Paul il dira dans 1 Corinthiens 10, 4, le rocher spirituel dans le désert. Par leur rejet de la vérité après l'avoir connu, ces Hébreux apostats, rebelles, incrédules. Alors, j'ai pensé cette semaine à les comparer un peu à ces trois ou quatre hommes dans le livre de Nombre 16. C'est très intéressant. Corée, Dathan, Abiram et toute la troupe de 250 000 hommes, plus 14 700. Qui ont suivi un peu leur rébellion. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces histoires, en fait. Alors, si vous voulez, je vais lire quelques versets très rapidement. Le temps avance quand même. Mais c'est très intéressant de lire ces passages, je trouve. Alors, je vais prendre dans Nombre 16. Je vous ai mis dans ces notes, hein, verset 1, 2, par exemple. Il commence directement avec la rébellion de ces hommes. Il dit « Corée, fils de Jitséar, fils de Gehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, et fils d'Aliab, et On, fils de Pélète, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Et il explique un peu leur rébellion, etc. Je passe. Et puis dans le verset 8, il dit justement, qui parle Moïse, il dit à Corée, donc un des rebelles. Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi, tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Donc c'est le contexte de... En fait, je prends cet exemple d'homme rebelle, et qu'advient-il pour eux? Donc 32, je lis, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison. » Et plus bas, on continue aussi, de ceux qui sont descendus vivants, et l'Israël, tout Israël qui commençait à fuir, il disait « Fuyons de peur que cette terre ne nous engloutisse. » Et alors, verset 35, « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel. » Nombre 16, 35. « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. » Après, il y aura aussi encore 14 700 qui vont périr dans les versets 27 en lit, dans les versets... tout ça. En fait, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas obtenu le rachat des transgressions, comme nous avons lu la dernière fois dans le chapitre 9. Le rachat... la rédemption de leurs transgressions qu'ils ont commis sous la première alliance. Ils n'ont pas reçu l'héritage éternel qui était promis par le sang du Christ. Et il semble que ceux-là qui étaient pourtant séparés ou choisis, le mot est très intéressant, ces hommes qui sont révoltés, il dit clairement, Moïse, il dit que vous étiez choisis dans l'assemblée d'Israël. Pourtant, si proche de Dieu, verset 16-9, elle dit ça, dans Nombre. Ils étaient loin, ils étaient engloutis par la terre. Leurs troupes qui les ont suivis ont péri au feu. Et je vois ici dans ce passage des exemples d'hommes dont l'auteur aux Hébreux peut faire allusion, semble penser, dans Hébreux 10, 27 à 31. Regardez le mot dans Hébreux 10, 27 à 31, il dit « Mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu dévorera les rebelles, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. » Vous voyez ça? Une attente terrible de jugement, verset 27. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je vois presque les 250 000 qui ont péri par ce feu. Donc ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu par leur rébellion. Contre l'Éternel. Contre Moïse. Leur esprit de révolte et de division se sont dressés contre Dieu. Ils agissent contre la vérité de la foi chrétienne dans le jour des Hébreux de la lettre qu'il écrit. Tels ces méchants juifs. Même parmi les païens, il ne faut pas oublier dans le contexte aujourd'hui aussi des différents noms d'église, des différentes dénominations d'église qui existent aujourd'hui, il y a toujours des apostats dans le sens qu'ils ont vu, connu la vérité. Ils ont même goûté à l'esprit, en quelque sorte, dans le chapitre 6 d'Hébreux en lit, mais qui ont rejeté Jésus-Christ. C'est ça le triste sort du rejet de l'apostat, du rejet de la vérité. Qu'en est-il maintenant de l'acceptation du Christ? Là, on va finir cette étude avec ça. L'acceptation du Christ et la sécurité éternelle du salut. Donc si la section de, on va pas voir trop, section 11 à 17, on les a déjà vus les dernières semaines, quand il parle de toute cette partie, on a lu d'ailleurs au début, de ce que ça ôte les péchés. On peut se concentrer peut-être sur la partie du chapitre 10, 19 à 25, et 32 à 39, enfin on va pas tout lire, on n'a pas le temps. Mais tout cela exhorte, et vous pouvez lire chez vous, cela encourage ceux qui ont reçu ou qui reçoivent aujourd'hui même et le jour du salut. Si dans la salle il y a quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, même aujourd'hui, dans ce lieu géographique, aujourd'hui est le jour du salut. N'endurcissez pas vos cœurs, dit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu dit aujourd'hui est le jour de salut. Donc tout ce passage exhorte ceux qui ont reçu le salut en Christ parmi les communautés des Hébreux et aussi de ceux qui sont unis avec les non-juifs, ces communautés hébreux qui se sont joints aux non-juifs dans la nouvelle alliance du sang de Jésus. Donc c'est un encouragement, une exhortation pour nous, qu'on n'abandonne pas, qu'on ne lâche pas. Donc il dissocie quand même pour moi entre les apostats et les chrétiens qui sont en train de beaucoup de difficultés, beaucoup de faiblesses dans leur vie à cause des persécutions, des lourdes persécutions, mais il les exhorte. Même nous, on peut vivre ces situations en tant que chrétiens aujourd'hui. Toutes sortes de tribulations, de rejets de la part des familles, des tristesses, des épreuves lourdes qui peuvent parfois nous faire baisser un peu les bras. Et ici, il dit, il ne faut pas baisser les bras. Il dit, verset 19, « Frères, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus. » Là, il rappelle vraiment le sang de Jésus. Oui. « Une libre entrée dans le sanctuaire. » Donc là, il s'adresse à ceux qui sont unis dans le Fils avec Jésus-Christ. Donc, frères en lui, par le sang duquel la libre entrée est possible à travers le voile. Parce que la route est nouvelle. Et cette roue toute vivante est inaugurée. Et est inaugurée par Jésus historiquement, hein, crucifié à la mort. Donc, il faut se rappeler que ces vérités qui sont certes spirituelles, hein, sont néanmoins matérialisées, comme on a dit tout à l'heure, lorsque le corps du Christ a été mis à mort. Le corps que Dieu a formé en Messie. C'est ce qu'il a dit, hein. Tu m'as formé un corps.
Oui.
Le corps que Dieu a formé en Messie. Lorsqu'il rend l'esprit au moment même où la déchirure du voile s'accomplit matériellement dans le temple. Jésus rend l'esprit, hein. Dans Matthieu 27, on lit ça. C'est quant à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce que tu as fait remarquer tout à l'heure. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc il y a une chose extraordinaire qui se passe, des réalités spirituelles qui s'accomplissent, même matériellement, avec cette déchirure du voile. Donc cette pénétration au-delà du voile de Jésus dans le lieu très saint, comme souverain sacrificateur, dans ce mouvement majestueux, dans la nouvelle et meilleure alliance qui est bien supérieure, d'une, par rapport à l'autorité de la Vierge d'Aaron, de deux, étant la manne d'en haut, Jésus nourrit les âmes, et de trois, la parole de la nouvelle alliance divine, faite chair, vivifiant l'esprit, révèle aussi une autre vérité. Jésus qui a aimé la justice, et il pénètre avec son sceptre d'équité, roi des rois, seigneur des seigneurs, dans le mouvement majestueux, au-delà du voile, avec son propre sang, avec l'aspersion du propre sang dans ce lieu très saint qui va pénétrer. Chose glorieuse, hein, qui se passe ici. Et en y entrant avec le Messie, Jésus-Christ, notre espérance, hein, l'apôtre Paul, il écrira à Timothée, hein, dans sa première lettre, 1 Timothée 1:1, Jésus-Christ, notre espérance. Donc en y entrant avec le Messie, Christ, Jésus, notre espérance, notre âme pénètre dans le lieu très saint avec cette espérance de l'éternelle sécurité au-delà du voile, comme une ancre solidement amarrée dans son sanctuaire éternel et son tabernacle céleste. Vous pouvez lire ce passage dans Hébreux 6, hein, 17 à 20, là le temps nous manque vraiment. Donc vous pouvez lire ça chez vous. Et il dit « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ici, l'auteur des Hébreux, en citant l'Ancien Testament, nous fait juste apercevoir que le sacrifice de son Fils a toujours été la volonté de Dieu dès la fondation du monde. Dieu, il avait toujours voulu ça.
Oui.
Que ce soit son Fils, élu avant la fondation du monde. Et les apôtres Jean et l'apôtre Paul aussi, hein, rejoignent ensemble, hein, ils disent que ce dessein divin planifié avant les temps éternels, que c'est en Jésus-Christ élu que Dieu a voulu manifester sa grâce devant son trône et de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Nous pouvons voir ces vérités, hein, sur ce dessein éternel dans 2 Timothée 1:9, Apocalypse 13:8. Donc le roi des rois, le fondateur des cieux et de la terre, nous ouvre une entrée libre, vivante et nouvelle dans son sanctuaire. Quel privilège, quelle joie, quelle allégresse que nous avons, que nous devons voir à travers ce voile. C'est plus un aperçu, nous voyons Dieu qui oint son Fils d'une huile d'allégresse. Hébreux 1:9. Dieu a, j'ai mis entre guillemets, christifié. Il a oint. Le mot, c'est ça, écrisen, hein, dans Hébreux 1:9. Dieu a christifié, écrisen Jésus d'une huile d'allégresse. Donc, je vais finir avec quelques lectures hein, dans ce chapitre 10, qui est si beau hein, pour les chrétiens, pour nous réconforter, encourager. Donc, là, c'est la dernière étude pour moi, enfin, dans cette saison du moins, dans ce stage, mais j'aimerais vous laisser ces passages que je veux bien lire avec vous dans Hébreux 10, verset 23, hein, à vous qui êtes en Christ, retenant fermement. Donc, à nous qui sommes en Christ, ces passages sont adressés. Hébreux chapitre 10, verset 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses, la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc il peut y avoir parfois des excuses, excusables si on peut dire, mais il ne faut pas en faire une habitude d'abandonner l'assemblée des élus. L'assemblée de Dieu, l'assemblée des croyants. Et le verset 35 à 39 aussi, c'est toujours encore une exhortation. Même ceux qui souffrent hein, de la part des non-croyants, d'un conjoint non-croyant parfois. Il y en a qui souffrent ici, même dans cette salle. Et Dieu, il est là. Dieu, il promet. Et ces versets peuvent nous encourager. Hein. Il dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez donc pas. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et c'est beau comment il termine ce chapitre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà un peu tout ce grand thème qu'on a vu. Hein. Donc, je rappelle, le sang de l'alliance de Moïse est toute inefficace. Elle est dans l'insécurité. Tandis que Jésus, le sang de l'alliance éternelle par le corps du Christ, il nous offre une perfection en lui-même. Parfait en lui-même. En sa justice, sa sécurité, sa garantie étendue aux Hébreux et aussi aux païens qu'on a vu. On a vu le rejet de Christ aussi et le jugement conséquent pour tous ceux qui sont aussi bien sous l'ancienne comme sous la nouvelle alliance. On a vu les apostats, le rejet de la vérité et à cause de leur incrédulité. C'est ça qui cause l'apostasie. Hein. On a vu ces hommes rebelles aussi. On a vu aussi maintenant l'acceptation du Christ par nous et la sécurité éternelle du salut. Donc en conclusion, on peut dire c'est la scène, je trouve c'est une scène sublime hein, ici. La scène la plus sublime de la croix du Christ, où de nombreuses vérités spirituelles prennent sens pour nous. Un si grand salut éternel obtenu ne peut que rester permanent et éternel à tous ceux qui l'ont reçu et cru, tant aux Hébreux que pour les non-Hébreux, les païens. Et on peut dire tous ensemble peut-être, gloire à Dieu, notre Père, au Fils, notre espérance, et à l'Esprit de grâce, au siècle des siècles. Amen. Merci de l'attention. On va prier, si vous voulez bien, dans cet esprit d'adoration. Oui, Seigneur, gloire à Dieu, notre Père, même en cet après-midi, en pleine semaine, en ce mi-semaine, nous pouvons élever nos voix pour te rendre l'adoration, le culte qui t'est dû, en disant gloire à Dieu, notre Père, au Fils, notre espérance, Jésus-Christ, et à l'Esprit de grâce, au siècle des siècles. Et merci pour toute cette étude que tu nous as donnée dans ce groupe, et que tu sois béni et que tu fasses pénétrer encore toutes ces vérités merveilleuses et spirituelles. Comment le corps du Christ a ouvert ce voile lorsqu'il s'est donné entièrement et qu'il est devenu mon sauveur, notre sauveur. Merci pour ce que tu as uni les Hébreux, les Juifs, avec les non-Juifs, les païens, et que tu as fait de nous un seul homme nouveau par le sang de Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père, à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'Esprit, au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Merci de votre attention.